Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. La Cour pénale internationale tiendra de lundi à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure suite à l'acquittement de crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'un de ses proches Charles Blé Goudé. Ils ont été reconnus non coupables en janvier 2019 pour de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, violences qui ont fait 3000 morts. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé ont été libérés sous condition en février 2019. En Côte d'Ivoire même, le bilan du glissement de terrain qui a emporté jeudi un hameau d'une vingtaine de maisons à Agnama, dans la banlieue nord d'Abidjan, est passé hier de 13 à 16 morts, 5 disparus et 52 familles sinistrées. À la suite de plusieurs jours de pluie diluvienne sur Abidjan, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Maria Toukoné, a appelé les habitants à quitter les zones à risque pendant cette saison de pluie pour éviter d'autres drames. En Tunisie, les forces de l'ordre ont tiré dimanche des gaz lacrymogènes à Tataouine pour disperser des manifestants réclamant des emplois et la libération d'un militant, et qui leur lançait des pierres et bloquait des routes avec des pneus enflammés. En Algérie, la justice a condamné hier à un an de prison ferme la militante Amira Barraoui dans un climat de répression accrue qui vise, dit-on, à empêcher la reprise du mouvement de contestation anti-régime. Amira Barraoui a incarné en 2014 l'opposition à un quatrième mandat du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Son avocat va faire appel. D'autres nouvelles africaines dans un instant. En attendant, le coronavirus continue de frapper durement l'Amérique latine avec plus de 50 000 morts pour plus d'un million de cas au Brésil, pendant que l'Europe continue de retrouver prudemment une vie normale, la France rouvrant lundi ses cinémas et rendant l'école à nouveau obligatoire. Le coronavirus a fait au moins 465 300 morts dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan de l'AFP hier. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec au moins 119 959 décès, suivis du Brésil, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France. Pékin a fait état dimanche de 22 nouveaux cas de COVID-19 alors que les autorités sont en train de tester plus de 2 millions de personnes pour contenir un nouveau foyer de contamination dans la capitale chinoise. L'équipe du président Donald Trump a tenté dimanche la contre-offensive après la relance décevante de sa campagne de réélection, attribuant aux manifestants et aux médias la faible affluence à son meeting organisé la veille en pleine pandémie à Tulsa, dans l'Oklahoma. Mais le meeting a été plombé par les images de rangées de sièges vides, la nouvelle que 6 membres de son équipe venaient d'être testés positifs au COVID-19 et un discours critiqué pour n'avoir pas abordé en profondeur la crise sanitaire et économique ainsi que le mouvement historique de colère contre le racisme que traversent les États-Unis. Sur ce dernier sujet, le championnat automobile NASCAR, très populaire dans le sud des États-Unis, se disant furieux et outré, a annoncé hier une enquête pour acte de haine après la découverte d'une corde de pendu dans le garage de Bubba Wallace. Le seul pilote noir qui participe en plein temps à cette compétition, cette corde à nœud coulant, rappelant les lynchages pratiqués aux États-Unis pendant les périodes esclavagistes et ségrégationnistes, a été découverte dimanche dans le garage attribué à M. Wallace sur le circuit de Talladega dans l'Alabama. La suite de nos informations. Le Soudan met en garde contre une escalade dans la dispute sur la construction par l'Éthiopie d'un méga barrage sur le Nil. Ce projet est source de vives tensions régionales, Abdourahmane Dia.
Le ministre soudanais de l'irrigation, Yasser Abbas, a déclaré que son pays ne voulait pas d'escalade. Les négociations sont la seule solution, a-t-il indiqué hier à la presse à Khartoum. Pour lui, il est important d'obtenir un accord avant le début des opérations de remplissage. Selon lui, le Soudan a le droit de le demander. Samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a assuré que son pays restait favorable à une solution politique. Lorsque nous avons eu recours au Conseil de sécurité, cela a découlé de notre volonté d'emprunter la voie diplomatique et politique jusqu'à la fin. La tension monte entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte après l'échec des négociations en vue d'un accord sur le remplissage du réservoir et la mise en service du grand barrage de la Renaissance. L'Égypte a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir, évoquant l'attitude non positive de l'Éthiopie et son insistance à vouloir remplir le barrage de manière unilatérale. L'Égypte tire 97% de ses besoins en eau du Nil. Le fleuve, qui coule sur quelque 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est.
Le ton monte entre Tripoli et le Caire. Le gouvernement libyen d'Union nationale a dénoncé hier, comme une déclaration de guerre, les menaces de l'Égypte d'intervention militaire dans le conflit en Libye voisine. Bagassi Koura.
Cette guerre des mots intervient à la veille d'une réunion ministérielle par visioconférence de la Ligue arabe sur la Libye, à laquelle le gouvernement d'Union libyen reconnu par l'ONU a refusé de participer. Samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a prévenu que toute avancée des pro-GNA vers Sirte, située à 450 km à l'est de Tripoli, pourrait entraîner une intervention directe du Caire. Mais le gouvernement d'Union qualifie ses propos, je cite, d'appui aux putschistes, aux milices et aux mercenaires et qui sont inacceptables. Fin de citation. Dans le conflit en Libye, l'Égypte soutient les forces du maréchal Khalifa Haftar, tandis que le GNA est appuyé militairement par la Turquie, ce qui lui permet de repousser les forces de Haftar qui avaient tenté de s'emparer de Tripoli. Les troupes gouvernementales ont d'ailleurs pris le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye. Les forces du GNA restent néanmoins freinées dans leur avancée vers la ville de Sirte, verrou stratégique vers l'est, qu'elles veulent reprendre aux troupes du maréchal Haftar, homme fort de l'est du pays pétrolier.
L'Arabie Saoudite a levé hier le couvre-feu et les restrictions imposées au commerce, malgré un pic de nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le point avec Michel Joseph.
Les médias d'État ont annoncé la reprise des prières à la Mecque, la ville sainte de l'islam, quelques semaines seulement avant le début prévu du Hajj, grand pèlerinage musulman, et malgré le recensement de milliers de nouveaux cas par jour dans le royaume. Le royaume a en revanche réaffirmé que la Omra, le petit pèlerinage à la Mecque et Médine, l'autre ville sainte de l'islam, restait suspendue. La question de la tenue du Hajj n'a pas encore été tranché, mais les autorités avaient appelé dès mars les musulmans du monde entier à suspendre leurs préparatifs. Ce pèlerinage, qui a attiré 2,5 millions de fidèles en 2019, est une source de revenus importante pour le royaume, mais serait un lieu de contamination privilégié en raison de la présence d'une foule immense dans les sites religieux. Le royaume, qui compte le nombre de cas de Covid-19 le plus élevé dans le Golfe, observe un pic de contamination depuis qu'il a commencé à assouplir fin mai les strictes mesures de confinement. L'Arabie Saoudite a enregistré près de 160 000 cas, dont 1267 décès, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Deux entreprises britanniques de premier plan, la chaîne de pub Green King et le marché de l'assurance Lloyd's of London, vont verser des donations à des organismes de soutien aux minorités ethniques, une forme de compensation pour leur implication passée dans le commerce des esclaves. La Fédération américaine du voyage a pressé le Congrès de venir en aide à ce secteur durement frappé par la pandémie de Covid-19 qui pourvoyait un emploi sur 10 aux États-Unis avant la crise. Selon une étude récente, les dépenses de voyage domestiques vont diminuer de 40% cette année, tombant à 583 milliards de dollars. Les dépenses de voyage émanant des visiteurs étrangers vont chuter de 75%, passant de 155 milliards en 2019 à 39 milliards. Dans ce secteur, le taux de chômage a grimpé à 51% en mai et 8,1 millions d'emplois ont été perdus rien que dans l'industrie du voyage. Avant la pandémie, l'industrie du voyage contribuait à hauteur de 2 600 milliards de dollars à l'économie américaine, soutenant 15,8 millions d'emplois américains. Le secteur a permis de dégager un excédent commercial de 69 milliards de dollars l'an dernier. Près de 1 500 lots témoignant des arts de la table et arts de vivre à la française seront mis sous le marteau, a annoncé Art Curial. La vente devait avoir lieu début avril, mais a été reportée de 2 mois et demi en raison de l'épidémie de coronavirus. Les estimations de base vont de 150 euros à 4 000-6 000 euros et sont ainsi ouvertes à toutes les bourses. Une vente de grand prestige qui avait attiré de nombreux curieux et acheteurs de 10 000 objets avait été dispersée pour un total de 7,2 millions d'euros. 60% du volume des ventes avait été réalisé par des étrangers de 53 pays.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Et bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football en Ukraine, le Shakhtar Donetsk a décroché un nouveau titre.
Oui, les joueurs de Louis Castro ont été sacrés grâce à un succès 3-2 face à Alessandria. Il ne peut plus être rejoint par le Dynamo Kiev. Le Shakhtar Donetsk remporte ainsi le 13e titre de champion de son histoire, le 4e consécutif.
Reprise en revanche de la Serie A italienne après plus de 100 jours d'arrêt.
Tout à fait, avec 4 matchs en retard de la 25e journée. On peut noter le nul 1-1 de Parme à domicile contre Torino. Le Hellas Vérone a battu Cagliari 2-1. L'âge victoire 4-1 d'Atlantan Bergamo face à Sassuolo. Et puis l'Inter de Milan, 3e au classement, a dominé 2-1 la Sampdoria de Gênes.
Reprise également en Angleterre et le leader au classement concède le nul.
De retour à la compétition, Liverpool s'est contenté d'un nul dans le derby de la Mersey contre Everton, score 0-0. En tête du classement avec 83 points, la formation de Jurgen Klopp dispose d'une avance de 23 points sur Manchester City qui joue ce soir contre Burnley.
Du côté de la Liga espagnole, on jouait la 30e journée du championnat.
Et le Real Madrid, vainqueur 2-1 de la Real Sociedad, ravit la tête du classement au FC Barcelone, accroché par le FC Séville, score 0-0. L'Atlético Madrid, vainqueur 1-0 de Valladolid, prend la 3e place.
Sur le continent, le championnat reprend en Égypte le 25 juillet prochain.
Exactement, Idrissa, c'est une décision du gouvernement égyptien. Interrompue depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, la Première Ligue va reprendre le 26 juillet prochain, a annoncé le ministre des Sports Achraf Sorbi. Pour le moment, les entraînements ont repris ce week-end. Ce retour au terrain est assorti d'un protocole strict, notamment la distanciation physique, des tests réguliers et un suivi médical pour les cas suspects.
Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
présente aujourd'hui VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. Les affaires en justice de Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, divisent les opinions en Côte d'Ivoire. À Boaké, ancien quartier général des Forces Nouvelles, le cas Soro fait débat. Certains de ses partisans osent dénoncer une justice, et je cite, « manipulée par la main du politique ». De Boaké, notre correspondant Siriki Barreau.
Je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public découlant d'une attente forte de la base, m'imposant ainsi l'obligation de compétir lors de cette convention. C'est ce qu'a répondu Henri Conan Védier aux membres de son parti qui lui ont demandé d'être candidat à la convention nationale. Une convention qui se tiendra en juillet prochain et à l'issue de laquelle le candidat du plus vieux parti de Côte d'Ivoire au scrutin présidentiel d'octobre prochain sera connu. Une demande formulée officiellement par Ghislain Laoré, celui que l'on présente comme le plus jeune délégué départemental du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est donc la fin d'un suspense, puisque certains des hauts cadres du parti d'Henri Conan Védier, à qui l'on prêtait des intentions présidentielles, notamment les ex-ministres Jean-Louis Villon et Thierry Tano, soutiennent cette candidature. Sauf catastrophe, Henri Conan Védier sera l'un des futurs adversaires d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat du parti au pouvoir, toujours en France, pour des soins. À 86 ans, la volonté de l'ex-président ivoirien de revenir aux affaires est diversement appréciée par les populations. Pour cet enseignant, la crainte que l'électorat du PDCI vole en éclats est bien réelle.
Nous sommes dans un pays où la population est très jeune. Est-ce que les gens vont véritablement adhérer à cette politique où aujourd'hui la jeunesse également commence à avoir les dents les plus longues pour pouvoir essayer un peu d'accéder à des postes de responsabilité? Bon, c'est aussi la démocratie. Espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne. C'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'Ivoiriens. Nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale.
S'inspirer de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, en passant la main à des plus jeunes. C'est l'avis de Daouda Traoré, un habitant de Boaké.
Au PDCI, je pense qu'il y a assez de cadres, notamment Jean-Louis Pion, Kakabé, et j'en passe. Donc le président Henri Conan Védier, pour ma part, devait s'agir et laisser la place à la nouvelle génération.
En réponse aux attaques sur son âge et sa capacité à diriger à nouveau le pays, Henri Conan Védier répond que c'est cette victoire qui permettra aux jeunes de Côte d'Ivoire d'accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques. Après avoir largement contribué à l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2010 puis en 2015, le sphinx de Daoukro, comme on le surnomme, a invité les membres du bureau politique de son parti à investir le terrain pour la quête des électeurs. Siriki Barreau, Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, les avocats de Vital Kamerhe ont annoncé vouloir aller en appel après la sentence de 20 ans de travaux forcés assortie de 10 ans de privation de ses droits civiques et politiques au terme de la peine. Le verdict a été annoncé samedi contre ce principal allié et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Quel impact cette condamnation peut-elle avoir au sein de la coalition au pouvoir? En dossier d'Eli Isango.
Pour l'instant, il est d'abord question de l'appel que comptent interjeter les avocats de Vital Kamerhe. VOA Lingala a posé la question à un avocat de l'instance concernée, la cour d'appel de Gombe, Maître Willy Winga.
Ils ont 15 jours pour cela, à dater du prononcé, parce que comme le prononcé a été fait dans les délais de la loi, dès le prononcé déjà, ils peuvent me faire acter l'appel là, en pleine audience, devant les greffiers siégeants. Un appel et les moyens qu'ils vont soulever certainement sont les moyens qu'ils avaient soulevés devant le premier les juges et que ce dernier n'a pas suivi. Ils vont soulever des questions relatives certainement à l'inconstitutionnalité. Ils vont revenir sur les problèmes de forme. Ils vont revenir sur la motivation. Ils vont revenir sur la sévérité de la peine. Et ils vont revenir sur l'innocence encore de leur client.
Pour certains, cette condamnation faite pour une affaire de détournement des fonds publics va certainement secouer la scène politique. C'est l'avis de l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoy.
Ça peut entraîner le changement au niveau de la tête du cabinet du président de la République, le changement dans le cabinet même, parce qu'il y a amené aussi beaucoup de gens là-dedans, même les remaniements ministériels, ça peut entamer même les alliances entre CACH, au sein de CACH, c'est-à-dire des CCUNT, entre Kamere et lui-même, le président public. Mais au-delà, entre CACH maintenant et FCC, parce qu'ils doivent avoir des stratégies d'ensemble dans le cadre de la coalition.
D'autres y voient la conséquence des élections qui beaucoup continuent à remettre en cause. Après des deux années après. C'est le cas du président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Kalouira.
Il n'y a aucune coalition parce qu'une vraie coalition ne se bat pas à l'intérieur. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes en train d'assister aux séquelles des fausses élections, des arrangements politiques maquillés sous forme d'élections. Donc, ce que vous vous appelez coalition n'en est pas une. Il s'agit d'une mise en place qui menace sérieusement la cohésion nationale, le secteur politique au Congo et qui nous appelle à un ressaisissement collectif qui engage tous les acteurs politiques. Il est arrivé le temps de nous asseoir, mettre en place un gouvernement d'ouverture, de cohésion pour préparer de nouvelles élections.
Mais ce qui est vrai est que l'avenir de Vital Kamerhe et son rôle dans la politique congolaise risquent de ne plus être à la mesure de ses ambitions présidentielles en dépit de l'accord CACH avec le président Tshisekedi qui voudrait qu'en 2013, il soit le candidat de la plateforme. Marcel Ngoy.
Cet accord déjà souffrait de quelques difficultés d'application parce qu'une fois élu, le président Félix Tshisekedi n'a pas nommé Vital Kamerhe comme premier ministre. Quand on regarde la condamnation de 20 ans, même s'il y a des procédures d'année en appel, comment en 2023, un seul partenaire qui est enchaîné dans les procédures judiciaires, comment en faire un candidat?
Sur les plans internationaux, un avocat français de M. Kamerhe a annoncé saisir bientôt les instances internationales, estimant que la justice congolaise a condamné son client sans preuve matérielle.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Au Mali, retour sur ce rassemblement vendredi de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Bamako pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette démission semble être désormais la mission d'une coalition hétéroclite formée ces dernières semaines contre le chef de l'État malien. Il s'est agi de la deuxième grande manifestation en deux semaines dans la capitale malienne contre le président Ibeka, après celle qui avait déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes le 5 juin et qui a donné son nom à la contestation « Mouvement du 5 juin », Rassemblement des forces patriotiques. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Place de l'indépendance sous un soleil de plomb. Après une prière dirigée par un imam sur la place de l'indépendance, l'hymne national est retenti. Puis le vacarme de Vuvuzela prend le dessus. Des manifestants portent des pancartes où l'on pouvait notamment lire « Ibeka dégage » ou « La dictature ne passera pas ». Amina Fofana, manifestante. Avant ces rassemblements, la CEDEAO avait envoyé des émissaires qui n'ont pu obtenir des organisateurs l'annulation de leur rassemblement. Founé Djité, manifestante.
La CEDEAO ne peut pas arranger le Mali. On a passé des élections présidentielles ici. La CEDEAO est venue pour observer. C'est la CEDEAO qui sait qu'on a triqué les élections, mais la CEDEAO a dit que les élections sont bienvenues. Mais si il veut qu'à travailler, il n'y a pas de problème. Même si tu voles les élections, si tu travailles là, il n'y a pas de problème. Mais on a volé les élections, ça n'a pas marché. L'Assemblée, on a volé. Troisième tour, on a fait ça à l'Assemblée. Jamais vu au monde entier. Donc vraiment, il n'a pas été le soldat de l'histoire du Mali. on a faim, on a soif, nos enfants sont malades, nos enfants ne vont pas à l'école, on ne trouve pas à manger, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité.
Le M5-RFP, qui rassemble des responsables religieux, des personnalités de la société civile comme du monde politique, demande la démission du président Ibeka et son régime. Le célèbre cinéaste Cheikh Oumar Sissoko est le porte-parole du M5.
Notamment les conclusions des challenges de crise post-électorale de 2018 et de 2020, l'accord politique de gouvernance, les résolutions de la conférence d'entente nationale de 2017 et du dialogue national inclusif de 2019. Nous décidons de maintenir la mobilisation de toutes les forces vives de la nation jusqu'à la démission du président.
C'est ainsi qu'une délégation a été formée pour aller à Koulouba, remettre la déclaration à Ibeka, demandant sa démission. Cette délégation a été repoussée par les forces de l'ordre. L'imam Mahmoud Diko a calmé les manifestants en ces termes.
On n'est pas sur les kilos. Comme dans le monde, la façon à des organisations, il y a une image qu'on ne doit pas dégager. Au même, c'est pas bon. Et moi, je dois avoir le courage de vous le dire aussi. L'image qu'on veut nous faire porter, la violence, la non-retenue, le cas brûlé. Non, refusons cette image. Nous avons la force morale, la force spirituelle, la force physique. Nous pouvons nous retenir pour nous distraire et distraire le peuple et distraire le reste du monde. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Nous appartenons à des organisations. Nous pouvons nous retenir et obtenir ce que nous voulons.
Dans l'impossibilité d'accéder au président Ibeka, l'imam Mahmoud Diko a demandé aux manifestants de rentrer pacifiquement à la maison et d'attendre des mots d'ordre dans les jours à venir. Bamako, Kassim Traoré, Léoa Africa.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, la journée mondiale des réfugiés a été célébrée dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, alors qu'un plus grand nombre de réfugiés et demandeurs d'asile vivent sur son territoire. Outre des émissions télévisées et des reportages de réfugiés impliqués dans la lutte contre la pandémie, le bureau du HCR a fait un don de matériel pour la lutte contre la COVID-19 en établissement sanitaire de la place et appuie aussi les réfugiés urbains dans la confection de masques pour contribuer à la réduction de la propagation de la pandémie. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Au 30 mai 2020, le Tchad compte à lui seul environ 474 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Il se classe ainsi parmi les 10 plus grands pays d'asile au monde.
Iris Blom, représentante adjointe du SR au Tchad. Les autorités de N'Djamena réaffirment au micro de VOA Afrique leur engagement de conserver le statut de terre d'hospitalité et d'asile. Mohamed Ismaël Cheribo est le ministre en charge de l'administration du territoire.
En dépit des défis sécuritaires et sanitaires, le gouvernement a encore accueilli en janvier 2020 environ 16 000 réfugiés soudanais à l'est du Tchad. Il devient donc impérieux dans la logique du pacte mondial pour les réfugiés de renforcer la coopération internationale pour partager ces fardeaux à travers des actions qui visent à soutenir les réfugiés et la communauté hôte.
C'est dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus que la Journée mondiale du réfugié édition 2020 est célébrée sous le slogan « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Iris Blom, représentante du SR au Tchad invite la communauté internationale d'être solidaire avec les réfugiés.
Ce thème vise à mettre en exergue la solidarité internationale et à encourager les actions visant à promouvoir l'inclusion, le respect et la dignité de toutes les personnes.
À cette occasion, le bureau du SR de N'Djamena, accompagné par quelques leaders de réfugiés urbains, a fait un don de matériel à un centre hospitalier de la place. Le chargé de la protection à base communautaire pour l'ASR basée à N'Djamena, Yannick Yankeyanke, se réjouit du fait que la situation épidémiologique des réfugiés soit stable.
Heureusement, jusque-là, nous n'avons pas enregistré de cas de réfugiés contaminés à la COVID-19 au niveau du Tchad. On continue encore à redoubler d'ardeur en termes de vigilance. Quand on essaie d'analyser regarder la situation dans les pays autour du Tchad, on ne peut que se réjouir de l'action menée par les autorités.
Les réfugiés urbains mettent la main dans la pâte pour aider la population vulnérable à avoir les masques pour se protéger. De Malayangue, Laïla, Marie-Anne et le point focal de protection de l'enfance des réfugiés urbains.
On peut aussi donner notre contribution en tant que réfugié dans cette lutte. Comme je suis couturière, j'ai constitué un groupe d'une vingtaine de femmes réfugiées qui ont des machines à coudre. Et on a confectionné les masques. Ensemble, nous allons vaincre le Covid-19.
André Kodumadjigar Ndjamena pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seguidia et de Michel Joseph à la mise en